Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, qui est donc de retour aujourd'hui, et c'est jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Le président ukrainien se dit prêt à un compromis autour du Donbass notamment. Alors est-ce possible, suffisant? On vous explique tout dans un instant. Dans ce journal également, ses appels au calme après la mort d'Ivan Colonna. Et puis embarquement à bord d'un taxi volant, le premier, figurez-vous, à survoler l'Île-de-France. C'était ce matin, RTL. Y était.
Nos deux sujets du jour, la mort d'Ivan Colonna et cette question, la Corse peut-elle à nouveau s'embraser? Je vous l'ai dit à 12h50. À 12h50, le salaire ahurissant, astronomique des footballeurs. Sur les 30 joueurs de Ligue 1, les mieux payés, 21 sont au Paris Saint-Germain.
Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est le printemps, grand beau temps.
Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Une journée bien ensoleillée dans l'ensemble. Quelques nuances tout de même. Un ciel plus voilé sur l'ouest de la Bretagne, sur le sud de la Garonne. Une petite averse n'est pas à exclure d'ailleurs. Et puis il y a toujours ce vent d'autant qui reste soutenu en Occitanie. Le tout sous des températures très douces, globalement comprises entre 15 et 19 degrés sur l'ensemble du pays.
Et la bonne nouvelle, c'est que ça va durer. Vous nous direz ça à 13h.
RTL Midi.
Et on commence donc avec l'Ukraine, 27e jour de guerre et ses déclarations du président Zelensky pour la première fois peut-être depuis le début de l'offensive russe. Il ouvre ce matin la voie à un compromis.
Je pense que la question de la Crimée et du Donbass est une histoire très difficile pour tout le monde. Pour trouver une solution, il est nécessaire que la Russie apporte des garanties de sécurité et la fin de la guerre. Et dans le même temps, nous devons nous mettre d'accord sur le fait que nous réglerons la question des territoires occupés seulement après. Lors de la toute première rencontre avec le président russe, je serai prêt à parler de ces questions.
Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une main tendue?
Alors un Zelensky qui accepte d'envisager des pertes territoriales, que l'Ukraine se rétrécisse géographiquement, l'Ukraine sans la Crimée annexée par la Russie il y a 8 ans, l'Ukraine sans le Donbass qui était avant la guerre de 2014 la région la plus peuplée du pays. Alors oui, c'est une vraie main tendue. Maintenant, on met un bémol. Zelensky dit bien que cette proposition doit être approuvée par le peuple au cours d'un référendum. Et puis de l'autre côté, il y a Poutine. Le chef du Kremlin est-il prêt, lui aussi, à un compromis? Ce qui est certain, c'est que sur le terrain militaire, eh bien, la situation se fige. L'armée russe s'installe dans une guerre de siège et on pourrait assister à un conflit sur des années. Donc la négociation diplomatique reste une solution. Les deux parties se parlent presque tous les jours. Mais il y a une heure encore, le Kremlin précisait que pour l'instant, les pourparlers ne sont pas assez substantiels.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, Zelensky qui s'est exprimé ce matin devant le Parlement italien. Demain, vous le savez, ce sera l'Assemblée nationale ici en France. L'occasion peut-être pour lui de demander à nouveau aux entreprises françaises de quitter la Russie. Elles sont encore nombreuses sur place. Mais il faut dire, Martial Youp, pardon, que rien ne les oblige à quitter le pays.
Ah oui, ça va peut-être changer d'ici la fin de la semaine si les Européens renforcent encore le niveau de sanctions et interdisent tout commerce avec la Russie. Mais pour l'heure, c'est vrai, du côté du gouvernement, du chef de l'État, du MEDEF, c'est toujours la même consigne. On doit rester en Russie. La patronne d'Engie avait indiqué qu'elle continuerait à honorer ses contrats de gaz en cours. Total Energy continue de travailler en Russie sur le gaz également. On dépend moins que les autres Européens des matières premières russes, ça on l'a beaucoup dit, puisqu'on est autosuffisant sur le blé et qu'on achète peu de gaz. Mais on est très implanté en Russie. 35 des 40 entreprises du CAC 40, 1200 sociétés françaises sont sur place. Plus de 160 000 salariés russes travaillent pour des groupes français. C'est simple, on est le premier employeur et le premier investisseur étranger. Donc chez Auchan, il n'est pas question à ce stade de quitter la Russie, pas plus que l'Ukraine d'ailleurs, où il y a encore une quarantaine de Leroy Merlin ouverts. La famille Mulier réalise 10% de son chiffre d'affaires en Russie avec les supermarchés Auchan. 18% du chiffre de Leroy Merlin. Partir de Russie, sauf si c'est une décision encore une fois de toute l'Europe, eh bien c'est ne pas revenir avant longtemps. Le ministre de l'économie russe a prévenu, soit vous restez, soit vous cédez les rênes à un russe, et ça va renforcer le pouvoir des oligarques, soit vous partez et on revend la société. Et là, ce sont les Chinois et les Indiens qui sont en embuscade.
Merci Adieu, chef du service économie de RTL.
Dans l'actualité également, Gabriel Attal qui appelle au calme et au dialogue après le décès d'Ivan Colonna.
Toute la lumière sera faite, promet le porte-parole du gouvernement. Un appel relayé sur place par de nombreux élus et militants nationalistes, à l'image de Paul-Félix Benedetti.
Ah, et là, on est dans le recueillement, on est calme. On s'y attendait. On va laisser un temps pour la famille, pour qu'elle puisse organiser les obsèques et le recueillement. Maintenant, il est certain que les mobilisations, elle ne fera que grandir avec le décès.
Qu'est-ce qui représentait pour vous Yvan Colonna ?
Un militant et quelqu'un qui a été victime d'une vengeance d'État, il marquera l'histoire de la Corse d'une manière ou d'une autre et ça sert à déboucher sur un pacte politique.
Paul-Félix Benedetti au micro RTL. Hugo Hamelin, en Belgique, le conducteur de la voiture qui a foncé sur la foule dimanche tuant 6 personnes a été inculpé et incarcéré la nuit dernière, inculpé pour homicide involontaire. Caroline N, c'est justement important ce mot involontaire, c'est la piste de l'accident qui a été retenue.
Oui, pour la juge d'instruction, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais bien d'un accident de circulation. Le conducteur, selon son avocat, discutait avec son passager et n'a pas vu la foule qui marchait dans la rue. Il a tenté de freiner, mais en état de choc, il a poursuivi sa route alors que deux victimes se trouvaient dans l'habitacle. Deux personnes qui, par la violence du choc, ont traversé le pare-brise. L'avocat maître Franck Di Cepoli.
Il rentre dans une foule de gens, il entend hurler autour de lui, il entend des coup sur son véhicule. Il y a deux personnes qui ont traversé le pare-brise, qui sont sur lui. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et donc, ce qu'il veut, c'est se mettre en quelque sorte à l'abri.
Le conducteur risque une peine de 5 ans de prison maximum. Le passager est lui inculpé de non-assistance à personne en danger et a été libéré sous condition. Tous deux étaient sous emprise de l'alcool, mais très légèrement au-dessus de la limite autorisée. On ne sait pas encore s'ils avaient consommé des stupéfiants, des éléments suspects et qui pourraient de nouveau requalifier les faits.
Ouais, Caroline N, la correspondante de RTL en Belgique, Cédric Jubilard, lui, reste en prison. La cour d'appel de Toulouse a rejeté ce matin sa nouvelle demande de remise en liberté. Un manquement à la présomption d'innocence, disent ses avocats.
Les chiffres du Covid et une semaine après la fin du masque obligatoire en intérieur, ça se confirme. Le nombre de cas repart à la hausse.
Et la situation est notamment frappante en Bretagne où le taux d'incidence dépasse les 1500 dans le Finistère. Pas beaucoup mieux dans le Pas-de-Calais où l'on est à 1240. Le docteur Michael Rochois est généraliste à Outreau.
J'ai eu 8 patients qui ont été positifs hier, 2 dimanche. À titre de comparaison, la semaine dernière, entre mardi et jeudi, j'en avais eu 5 qui étaient positifs. Il y a effectivement une augmentation bien bien perceptible, 5 jours après la levée du port de masque le lundi, ce qui est complètement cohérent avec le délai d'incubation qui est de 5 jours pour le Covid. La levée du masque fait que ça augmente toutes les viroses respiratoires, donc Covid bien sûr, mais aussi la grippe, mais aussi des rhinovirus. Et donc en fait, on est aveuglé parce qu'on a plein de patients qui ont des symptômes qui sont compatibles avec le Covid et qu'il faut voir assez vite, qu'il faut pouvoir isoler, enfin voilà.
Le docteur Michael Rochois, joint pour RTL par Agathe Landais. À l'instant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déplore que plusieurs pays européens aient levé trop brutalement, ce sont ses mots, les mesures.
Première en France, un taxi volant a survolé l'Île-de-France.
Oui, avec un pilote à son bord. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous avez assisté à l'événement ce matin sur l'aérodrome de Pontoise. Ça ressemble à quoi un taxi volant ?
Alors ça ressemble à un hélicoptère, mais avec des hélices de drone. Sur un hélicoptère, en général, vous avez une grosse hélice au-dessus. Ici, il y a une bonne dizaine de rotors, 100% électriques. Et ce matin, ce sont les équipes de la RATP, partenaires du projet, qui sont venues mesurer le bruit. Corinne Fouillol est responsable de l'acoustique pour le groupe.
Ah oui, là, il y a plus de 25 capteurs en fait acoustiques. Et dans ce cadre-là, on cherche en fait à mesurer l'empreinte sonore. Tous ces capteurs-là vont nous donner en fait ces informations-là.
Et par exemple, on a pu se parler tranquillement au décollage de ce taxi volant, alors qu'avec un hélicoptère classique, ce n'est pas possible. Et pour Edouard Arkwright, directeur général exécutif d'Aéroports de Paris, les possibilités de cet appareil sont bien plus larges.
On a beaucoup en tête l'usage du taxi, mais les vrais usages de cette nouvelle aviation, c'est la logistique, le transport médical, le transport d'urgence. Et ces usages-là, il faut maintenant qu'on puisse les tester au moins autant que le passager.
Et s'il l'assure, les premiers vrais passagers pourront monter à bord pour les Jeux Olympiques en 2024. 2 lignes seront en service pour rejoindre la capitale.
Vous voyez, à bord d'un taxi volant,
c'est très silencieux,
2024.
C'est ça qui est bien, surtout.
Arnaud Touche à l'aérodrome de Pontoise pour RTL. Ça fait moins de bruit qu'un hélicoptère. Premier vol, en tout cas, avec un temps parfait. Grand soleil et beau ciel bleu aujourd'hui sur Pontoise, comme partout d'ailleurs en France. Hortense Crépin, on vous retrouve sur les bords de Marne. Bonjour, où l'on profite du printemps, on entend les petits oiseaux.
Oui, oui, oui. Ici, dans le port de Nogent-sur-Marne, on savoure les rayons de soleil au bord de l'eau et même sur l'eau, comme Xavier, lui, est debout sur sa planche de paddle.
Et ben on est bien, ouais. Il fait super beau. Bon après je profite un peu parce que j'ai un peu de congé. Et il fait juste formidable, il fait pas trop chaud. Il fait pas trop froid, on sent super bien et franchement là j'en transpire encore et c'est pas fini. Donc vraiment il faut sortir et profiter de tout ça quoi.
Sur les quais, Josette, elle marche au pas de course, au milieu des cyclistes avec sur le nez ses lunettes de soleil.
Bah écoutez, je suis en train de faire ma promenade quotidienne. Bah, on doit être à 4 km. Le décor, on a l'impression d'être carrément en vacances sur le bord de, je sais pas, de la plage, sur un port. Donc effectivement, oui, on est super bien.
Certains ont même délaissé les transports pour venir à pied au travail, comme Carole.
On en a profité avec ma fille. On s'est dit, tiens, on va passer par les bords de Marne. C'est sympa, les petites grillades, les apéros, c'est les beaux jours, quoi.
Les beaux jours qui devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine.
Hortense Crépin en direct de Nogent-sur-Marne pour RTL et avec Jonathan Griveaux. Vous avez préparé votre panier à pique-nique, Pascal. Vous savez, vous me devez toujours un déjeuner au soleil.
Je pensais à la chanson « Quand on se balade au bord de l'eau » chantée par Jean Gabin, je crois que c'est dans La Belle Équipe. Donc on pourrait illustrer le reportage de Hortense par cette chanson. Dans une seconde, retour sur la mort d'Ivan Colonna. Une question, la Corse peut-elle à nouveau s'embraser? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et c'était le 13 mars dernier, il y a un peu plus d'une semaine à Bastia, la manifestation de soutien à Ivan Colonna virait à l'émeute plus de 100 blessés, dont 77 parmi les forces de l'ordre. Depuis, le calme est revenu, mais au lendemain du décès de l'un des assassins du préfet Erignac, forcément on s'interroge. Comment les Corses vont-ils réagir? L'île de Beauté risque-t-elle de s'embraser à nouveau? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous, Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Vous revenez tout juste de Corse. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Hugo, d'abord, pour l'instant, pas ou très peu de réactions sur place.
Ouais, la famille d'Ivan Colonna a demandé, je cite, que son deuil soit respecté. Et en Corse, on prend ce conseil très au sérieux. Ni le maire de Bastia, ni Gilles Simeoni, qui est président de l'exécutif corse, n'ont souhaité prendre la parole ce matin. J'ai pu joindre plusieurs responsables nationalistes. Vu le diagnostic, ils s'attendaient bien sûr à un décès, mais l'émotion est palpable. Colonna reste pour eux ce militant en cavale, puis ce prisonnier enfermé loin de l'île de Beauté. Un symbole du combat des Corses contre l'État centralisateur. Et puis son assassinat a déclenché, vous l'avez dit, cette nouvelle vague de protestations sur l'île avec des revendications qui allaient finalement bien au-delà du cas d'Ivan Colonna.
Vous avez échangé avec ceux qui ont manifesté la semaine dernière et celle d'avant. Est-ce que le décès d'Ivan Colonna peut raviver encore la colère ?
Eh bien, pour le chef des indépendantistes Corinne Fronté, ce décès ne peut que renforcer la mobilisation, mais il promet de patienter jusqu'aux obsèques. Du côté des étudiants qui sont fer de lance de ces mobilisations parfois violentes, c'est la même chose. Ils appellent pour le moment à des recueillements dans les églises. Il va y avoir donc ce temps, ce passage jusqu'aux obsèques, mais un rassemblement est tout de même annoncé à 17h ce soir devant la préfecture de Haute-Corse à Bastia, un autre demain matin à Ajaccio. Manifestations qui seront très encadrées par les forces de l'ordre, avec pour consigne d'éviter tout blessé chez les manifestants.
Thomas Proutot, où en est l'enquête sur cette agression dont a été victime Ivan Colonna?
Alors la piste privilégiée, c'est bien celle d'une vengeance au nom d'Allah. Le djihadiste français, auteur de l'agression, aurait décidé de punir Ivan Colonna pour avoir blasphémé Dieu. Mais on ne sait pas quand ces propos auraient été prononcés, car selon l'administration pénitentiaire, les deux hommes se côtoyaient régulièrement et aucune animosité n'avait été détectée. Et de manière générale, d'ailleurs, la pénitentiaire semble écarter tout manquement dans le suivi de ces deux détenus dits DPS, détenus particulièrement surveillés, pas même sur les 10 longues minutes pendant lesquelles aucun gardien n'est intervenu pour mettre fin à l'étranglement d'Ivan Colonna devant les députés la semaine dernière. Le directeur de l'administration pénitentiaire s'est retranché derrière l'impossibilité d'avoir l'œil simultanément sur les 54 caméras de surveillance de la centrale d'Arles. Une enquête de l'inspection générale de la justice a été lancée, mais les conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs semaines.
On est dans un contexte politique particulier, Thomas, pleine élection présidentielle. Et ce matin encore, il y a un certain nombre de candidats, ou en tout cas de membres de l'opposition, qui se demandent pourquoi Éric Dupond-Moretti ne parle pas, ne s'est pas exprimé sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas ou peu entendu.
Alors il s'est mis en retrait dès le départ pour une raison toute simple. Il a été l'avocat d'Ivan Colonna lors de l'un de ses procès, le dernier. Donc dès l'annonce de l'agression, il s'est déporté, comme on dit. C'est Jean Castex qui assure l'ensemble de la communication sur tous les aspects de cette affaire.
Hugo, pour l'instant, pas de date d'obsèques?
Oui, c'est ça. Selon un policier que j'ai eu ce matin au téléphone, deux scénarios sont envisagés. Le rapatriement sur l'île du corps d'Ivan Colonna dès cet après-midi, probablement par avion. Ou alors, le corps reste encore immobilisé un jour ou deux à Marseille pour une autopsie. Il faut savoir que ce sont les fonctionnaires de la sous-direction...
Manifestement, la ligne a été interrompue.
Ivan Colonna... directement mis en cause.
Malheureusement, on a manqué un passage Hugo. De ce que vous disiez, Hugo. Si vous pouviez répéter juste les deux scénarios, phrases que vous avez dites.
Deux scénarios, voilà, le rapatriement sur l'île du corps d'Ivan Colonna dès cet après-midi, probablement par avion. Ou alors, selon le policier que j'ai eu ce matin au téléphone, un corps qui reste encore immobilisé un jour ou deux à Marseille pour une autopsie par les services de la sous-direction antiterroriste qui pilote l'enquête sur son assassinat. J'ajoute que Gérald Darmanin avait indiqué la semaine dernière, lors de son déplacement en Corse, que les conclusions de l'enquête, pas l'enquête judiciaire, mais l'enquête administrative, seraient rendues publiques et ce serait dans moins d'une semaine désormais.
Merci Hugo. Ivan Colonna et l'assassinat du préfet Erignac, c'était le 6 février 1998. C'est l'une des grandes affaires qui a marqué ces 25 dernières années. Il y a eu 3 procès.
Oui, le 6 février 1998, le préfet arrive à pied à un concert dans une salle de spectacle d'Ajaccio. Son épouse l'attend à l'intérieur. À 21h06, des coups de feu éclatent. Claude Erignac vient d'être abattu de 3 balles dans la tête. Le tireur a réussi à s'échapper. La traque lancée par les forces de l'ordre mobilise des centaines d'enquêteurs. 394 personnes sont interpellées dans les premiers mois sans résultat. C'est finalement l'analyse des milliers d'appels passés ce soir-là. Une première en France à cette échelle qui va débloquer l'enquête. 4 militants nationalistes sont identifiés et interpellés en mai 1999. Très vite, ils passent à table. Selon leurs aveux, l'assassinat visait à créer un électrochoc et à ressouder les nationalistes de l'île. Et ils livrent le nom du tireur, Ivan Colonna, fils d'une grande famille corse dont le père est devenu député socialiste des Alpes-Maritimes. Ivan Colonna, lui, a regagné l'île de Beauté à 20 ans et s'est finalement installé comme berger à Cargèse, où il est devenu proche des indépendantistes et son adresse est bien connue.
Mais quand ils arrivent chez lui, les policiers, il n'est plus là.
Il n'est plus là et commence une cavale de 4 ans. Ivan Colonna dit au revoir à son fils, prend le maquis. Il devient le fugitif le plus recherché de France. Son visage est placardé dans tous les commissariats, toutes les gendarmeries. Vous vous en souvenez forcément, Pascal et Amandine. En Corse, des graffitis fleurissent sur les murs. Gloire à toi, Colonna. Il est recherché en Italie, au Maroc, en Amérique du Sud. Aucune trace du berger de Cargèse. Les services d'enquête, l'antiterrorisme et la DST revoient alors leur stratégie. Et si ils n'avaient pas quitté l'île, une surveillance méticuleuse du clan Colonna s'engage. Elle va finir par payer et conduire un patron de camping qui livre des colis dans la montagne. 28 hommes du raid sous couverture sont envoyés sur l'île. La planque est repérée, une maison de granit isolée dans le maquis. Le 4 juillet 2003, Ivan Colonna est interpellé en douceur au retour d'une promenade. Fin de cavale, la fin de cavale fait les gros titres.
Ivan Colonna se trouve en ce moment au commissariat d'Ajaccio où son mandat d'arrêt doit lui être signifié. L'assassin présumé du préfet Erignac a été arrêté vers 19h par les policiers du raid alors qu'il se trouvait dans une bergerie dans la région de Porto Polo en Corse du Sud.
Interpellation. Thomas Ivan Colonna est finalement condamné. Mais il a toujours nié.
Absolument. Au cours de 3 procès d'assises 2007, 2009, 2011, l'un d'eux avait été annulé pour un vice de procédure. Et en 2011, la Cour de cassation a rejeté définitivement son dernier pourvoi. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Merci Thomas Proutot pour ce point complet. Dans une seconde, un sujet tout à fait différent, plus léger bien sûr, à 12h50. Et même à 12h52 sans doute, le salaire des footballeurs. Les 30 joueurs de Ligue 1 les mieux payés, 21 sont au Paris Saint-Germain.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Sur RTL et on parle donc argent et football. C'était facile, Pascal, mais ça fait plaisir. Vous n'êtes pas d'accord?
Ah bah, ce qui est incroyable, c'est les chiffres, parce que les gens qui écoutent ces chiffres-là en pleine
crise... Ah, moi je parlais de la musique.
Ah oui, bien sûr. Oui. Bien
bon,
sûr.
Avec cette une donc, de l'équipe, les chiffres justement, payer plus pour gagner moins, c'est le titre ce matin du quotidien sportif qui publie donc le classement des salaires des joueurs de Ligue 1. Bonjour Lionel Dangoumo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes rédacteur en chef football à l'équipe. Alors, Pascal le disait, effectivement, ces chiffres, ils sont complètement hallucinants, qui plus est dans un contexte de crise. Et quand on vous lit, en fait, on s'aperçoit que tous les salaires ou presque augmentent, c'est bien ça?
Disons que oui, surtout dans les principaux clubs français comme le PSG, les salaires ont augmenté cette année malgré la crise qui a frappé le sport depuis le début de la pandémie de Covid. Mais il y a quand même des clubs qui s'efforcent de maîtriser leur salaire et leur masse salariale parce qu'ils voient bien que leurs ressources ne leur permettent plus ou ne vont plus leur permettre d'assumer ce niveau de salaire.
Juste les chiffres que vous publiez, il faut le préciser, ce sont des estimations. Comment vous arrivez à ces estimations ?
C'est un travail assez ardu et de longue durée pour nos reporters qui travaillent sur les clubs français et auprès de leurs sources différentes et variées que je vais évidemment pas révéler là, mais voilà, d'arriver à trouver ces chiffres, les recouper pour proposer à nos lecteurs les estimations les plus précises possibles.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui perdent de l'argent en Ligue 1 et qui, malgré tout, sont largement déficitaires. Par exemple, le PSG, à la fin de la saison, il gagne de l'argent ?
Non, le PSG table cette saison sur un déficit qui sera probablement autour de 200 millions d'euros, mais le PSG, il est adossé à un actionnaire qui a des moyens quasiment illimités, le fonds souverain de l'État du Qatar. Donc, vous savez bien que malgré ce déficit, le PSG continue à investir, continue à payer des joueurs à des salaires parmi les meilleurs au monde.
Donc, sur les 30 meilleurs, plus gros salaires de Ligue 1, 21 jouent au PSG.
Oui, ça reflète bien la toute-puissance financière du club parisien sur la Ligue 1 et le fait qu'il n'a pas de concurrent, du moins sur ce plan-là, sur le plan économique. Sur le terrain, c'est parfois un peu plus compliqué, mais on voit bien cette saison qu'en championnat, du moins, le PSG est largement au-dessus de tous les...
Amandine va nous faire rêver parce qu'elle va citer quelques joueurs et quelques salaires.
Non, avec des salaires mensuels.
Mensuels,
Neymar, c'est un peu plus de 4 millions d'euros. Messi, 3,375 millions. Mbappé 2,220,000 et après si je descends, Di Maria 950 000.
C'est net d'impôts ou pas ça ? C'est-à-dire c'est ce qu'ils ont dans la poche ou c'est ce que sort le club ?
C'est le brut, donc c'est le brut, le salaire brut comme vous quand vous sur votre fiche de paye, le salaire brut auquel s'ajoutent les charges patronales qui figurent pas là, mais c'est le brut avec les charges salariales, c'est pas le net qui se retrouve à la fin du mois dans leur poche.
Et est-ce qu'on sait combien il rapporte un Neymar par exemple ? Donc il touche
il perd 200 millions le PSG.
Oui, mais il doit rapporter de l'argent quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les achète,
C'est vrai que, en fait,
il y a discussion.
Non, mais si on veut trouver une justification à ces salaires, effectivement, l'argument de ce qu'ils rapportent à leur entreprise, à leur club, est assez pertinent parce que ce soit Neymar ou Messi, par exemple, financièrement, c'est pas pour le PSG, c'est pas là qu'ils perdent de l'argent parce que c'est des joueurs qui, au contraire, lui ont permis de gagner beaucoup d'argent, notamment sur les ressources de sponsoring, de marketing, de billetterie aussi. Voilà, ce sont des joueurs qui remplissent les stades, qui font vendre des maillots, qui permettent d'avoir de nouveaux partenaires qui payent plus cher pour être sur le maillot.
Le déficit, il n'est pas à cause de Neymar ou d'un Messi.
Non, le déficit, il est global. Disons que quand vous voyez effectivement que vous avez des joueurs de second rang qui ont des salaires qui sont encore très 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 élevés, c'est peut-être plus sur ces joueurs-là qui, eux, rapportent moins d'argent, mais qui sont quand même payés beaucoup.
Non, mais tout le monde a un salaire très élevé parce que l'entraîneur le moins cher de France, je crois que c'est 70 000 euros. Donc personne ne gagne...
Un petit peu moins, 40 000. Ouais,
voilà, 40 000. Mais personne ne gagne 40 000 euros, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Mais Jean-Claude Blanc, qui est un des dirigeants importants du Paris Saint-Germain, et j'espère ne pas trahir une conversation privée, me disait il y a un ou deux mois, quand ils ont fait signer Messi, ça coûte à peu près 50 millions d'euros par an. Eh bien, en septembre et octobre, ils ont fait signer deux ou trois contrats de sponsoring qui, pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, payent Messi sur l'année. Et ces contrats ne seraient pas venus si Messi n'avait pas signé au PSG. Donc, alors, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quasiment l'année était payée par ces deux ou trois contrats. Merci Lionel Dangoubo.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et les salaires des journalistes de l'équipe, est-ce qu'ils seront publiés
Pas cette année.
Pas cette année. Bon, 12h57, on va pouvoir évoquer cela avec les auditeurs dans une seconde. On sera également avec Maud Bréjon, parce que vous savez que les auditeurs sont en mode présidentiel actuellement. Maud Bréjon, qui est une des porte-paroles de La République En Marche. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL.
Il est 13h.
Jusqu'à
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous serons avec Maud Bréjon, que je salue, qui est dans ce studio et qui est une des porte-parole de La République En Marche. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs. Il y aura des questions, peut-être déjà Nathalie qui est en place. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Pascal,
votre
bonjour Madame
Bréjon. Première question, gardons le suspense, mais si j'ai bien compris, elle concernera les retraites.
Oui, car faute de salaire de footballeur, je voudrais savoir avec combien je vais vivre à 65 ans.
Eh bien, votre parallèle est excellent et vous avez raison de le souligner. Amandine, le rappel des titres.
Et à la une, le Covid, on évoquait ces chiffres de contamination qui repartent à la hausse. L'Organisation mondiale de la santé regrette ce matin que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, aient levé trop brutalement leurs mesures anti-Covid et se retrouvent confrontés à une nette remontée des cas. L'OMS qui reste toutefois optimiste. Pour la suite, l'actualité, c'est bien sûr l'Ukraine, 27e jour de guerre, et ces déclarations du président Zelensky qui ouvre ce matin la voie au compromis. Il se dit prêt notamment à une discussion autour du Donbass. Et puis, c'est une marque connue dans le monde entier, connue par tous les Français, Caddy. Les supermarchés, eh bien, le tribunal judiciaire de Saverne donne son feu vert à la reprise du fabricant qui était en faillite depuis le début de l'année. Reprise donc acceptée, avec toutefois des suppressions de postes. Hein. L'entreprise devrait passer de 139 à 113 salariés. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy, et des températures dignes d'une fin avril.
Exactement, Amandine, fin avril pour la moitié sud et même début mai pour la moitié nord, parce qu'aujourd'hui, il fait plus doux au nord qu'au sud.
Pour
une fois, comme vous dites, 14 à Perpignan, 15 degrés à Toulon cet après-midi ainsi qu'à Toulouse, 16 à Lyon, Tours, Rennes et Brest, 18 à Paris, Strasbourg et Biarritz, jusqu'à 19 degrés à Bordeaux comme à Lille. Côté ciel, peu de choses à signaler parce qu'il y a un beau soleil sur l'ensemble du pays. Quelques petits bémols tout de même sur l'ouest de la Bretagne où le ciel se voile. Ça reste plus ou moins voilé également sur le sud de la Garonne avec une petite averse possible. Et puis il y a ce vent d'automne qui est toujours bien soutenu, jusqu'à 90 km/h sur les plaines toulousaines et jusqu'à 100 km/h sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron.
Et demain, ça continue.
Exactement. Encore une très belle journée printanière, bien ensoleillée et douce sur l'ensemble du pays. Le vent d'automne va faiblir, mais restera sensible. Et les températures seront contrastées. Ça veut dire qu'on met plusieurs couches. Les minimales seront froides et les maximales seront douces, de 0 à 4 degrés sur le nord-est, de 4 à 8 ailleurs. Et des maximales très douces, toujours au-dessus des normales, globalement comprises comme aujourd'hui. Entre 15 à Montpellier, 19 degrés à Lille et Paris, 17 à Bordeaux, Lyon et Brest.
Merci Peggy, ça va durer toute la semaine ce beau temps.
Exactement.
Merci Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Van de Kerkhove qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Il est 13h03.